Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les immanquables de Paul Lassen. On commence, Paul, avec la crainte du jour.
Alors qu'il tenait un discours pour rappeler l'Europe à une union, alors que l'Europe s'effrite à ses yeux, Emmanuel Macron a émis des craintes quant au futur de l'Union européenne. Écoutez.
Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Les règles ont changé, a rajouté le président, et pour s'y adapter, l'Europe doit passer par la puissance, la prospérité et l'humanisme.
Perico Legas, l'Europe est-elle en danger ? Alors, dit Emmanuel Macron.
Déclaration très importante, toujours très bien présentée, courageuse du CID. C'est quand même un constat d'échec de ce que l'Europe est devenue ou n'est pas devenue. Il a le mérite de le reconnaître. Voilà. Il a utilisé des termes qui, dans la bouche d'un homme politique, leur évalue il y a 5 ans l'anathème d'anti-européen. Donc, il reconnaît qu'il y a eu des lacunes. Voilà. Et moi, je lui rends grâce, je pense qu'il est sincère. Alors, on a envie de dire, monsieur le Président, il y a d'autres personnalités qui, depuis Philippe Séguin, ont prévenu qu'on risquait d'arriver en Europe dans ces impasses, dans ces lacunes, dans ces
défaillances. Ceci étant dit, mais à l'époque où Philippe Séguin parlait, il y avait encore la guerre froide, mais là, on a quand même on a quand même un État hyperpuissant, la Russie, qui a attaqué un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est en Europe, l'Ukraine.
Il n'a pas parlé que de ça.
Ouais, mais
Parlé que de ça. C'est là ce dont qu'il a évoqué, c'est pas que la guerre en Ukraine. Il a reconnu que l'Europe n'est pas terminée, elle n'est pas finie, elle n'est pas aboutie, elle a des points faibles et elle a des incohérences. Donc on va les corriger. Et en tant que tous, on est tous européistes, à part quelques isolés qui n'y croient pas du tout. C'est la seule solution face au bloc chinois, au bloc américain et à Russie. Il faut faire l'Europe. Il va peut-être se donner les moyens. Alors, il est seul, on est la seule puissance nucléaire sur l'Union européenne. Alors, on va peut-être revoir avec les Anglais une union militaire. En tout cas, s'il met en application, lui, président de la République française, ce qu'il a fait là, ce qu'il a conclu, son analyse, s'il convainc les 27 autres de la prendre en considération, ça va tout changer. Mais je rends juste hommage à ceux qui avaient prévenu qu'on allait en arriver là, qu'ils se sont pas battus pour rien, et qu'on était donc pas si européiste, anti-européiste que ça, en constatant il y a 5, 6 ans ou 10 ans, ce qu'il vient lui de constater dans le discours d'hier, qui est un discours historique, exemplaire.
C'est formidable.
C'est toujours du Macron. Est-ce qu'il va le faire?
Pour moi, en fait, Emmanuel Macron a un bilan désastreux dans son propre pays. Et donc ne peut forcément pas avoir un bilan
c'est pas le sujet,
quelconque sur l'Europe. Il perd en influence, en crédibilité et en influence. Et on l'a vu d'ailleurs quand il est allé bêtement dire qu'il n'était pas contre l'envoi des troupes en Ukraine et qu'il s'est fait désavouer par tous les représentants d'Europe à la fois. Donc je suis désolée, Macron, il peut s'en vouloir à lui-même parce que la France évidemment a un rôle majeur à jouer dans l'Union européenne et qu'elle perd en influence petit à petit et qu'il en est partiellement responsable.
Je regrette que cette vision de son discours, tu vois. Alors qu'il a fait une avancée énorme.
Laquelle?
De reconnaître que l'Europe doit être faite et qu'il faut de la protection.
Moi, je suis d'accord.
Il faut de la solidarité.
Ça.
Il a fait l'éloge du protectionnisme sans le citer comme ça. Oui, il a dit qu'il faut se resserrer.
Qu'est-ce qu'il fait?
Il faut pas défendre les marchés.
À part les belles phrases, les belles formules. L'Europe est morte. T'as toujours les éléments de langage, là, qui claquent, qui vont être repris non-stop par les chaînes d'infos en continu. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme mesure? Qu'est-ce qu'il y a pour ce qui soucie, inquiète le plus les Français? Le pouvoir d'achat, l'environnement. Ce que j'ai vu.
C'était sur l'Europe, là.
On est sur l'enjeu européen, sur la politique intérieure.
Et alors?
Eh ben, il a le droit de s'exprimer sur l'enjeu européen qui est essentiel pour nous.
Oui, mais l'enjeu européen, c'est aussi le pouvoir d'achat des Français. C'est aussi une politique environnementale au niveau européen. Moi, ce que j'ai vu hier. C'est quand même un discours qui a duré 2 heures en plein milieu de la journée. Il faut aussi avoir que ça à faire aussi, de faire ça. Moi, j'ai vu un chef de parti. Moi, j'ai vu un directeur de campagne qui faisait un meeting dans le cadre des élections européennes parce que sa tête de liste aujourd'hui est complètement nulle. Elle est complètement dépassée par les événements et qu'on a un Rassemblement national qui a 30%. Voilà, moi, ce que j'ai vu hier.
Du président de la République française.
Moi, j'ai pas vu un président de la République.
Certains partis ont même souhaité exprimer leur vœu, en tout cas, que le temps de parole d'Emmanuel Macron soit décompté de la campagne.
Oui.
Allez, le sacre du jour.
Hier soir se tenait la cérémonie des Flammes, grande fête de récompense du rap français. Et la grande gagnante de cette cérémonie, eh bien, c'est elle. Aya Nakamura a été sacrée artiste féminine de l'année, mais elle a aussi remporté un prix pour le nouvel album pop de l'année et une autre pour son rayonnement à l'international. Un succès mondial, justement, qui pourrait ou pas l'amener à se produire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. L'artiste qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet à l'issue de la cérémonie.
Bon bah clairement, est-ce que il fallait peut-être pas ça, mais après ce qui s'est passé hier soir, tout ce que tout le monde dit, etc., c'est devenu imparable.
Et elle a été défendue par Omar Sy.
Ouais, Aya Nakamura. Aya Nakamura.
Est-ce
que c'est imparable maintenant? Aya Nakamura chantera lors de la cérémonie des JO.
Bah moi je pense que c'est le but, mais elle ne chantera pas seule.
Ah non.
Ce sera pas la seule.
Ah, c'est pas un concert de Aya Nakamura.
Non, mais voilà, il y aura d'autres artistes. Écoutez, moi j'ai envie de dire. Bravo à Aya Nakamura pour la cérémonie des flammes, c'est entièrement mérité. Je n'ai rien spécialement contre Aya Nakamura. Après, c'est vrai que moi j'ai vu une partie de sa performance hier et je me suis dit dans ma tête, effectivement, j'avais pas tort de dire que j'avais pas vraiment envie de voir cette représentation là au JO. Ouais. Maintenant, je vais m'en remettre parce que c'est nul.
Oui, ça sera.
C'est voilà.
Mais ça sera pas la même chose si elle est à la cérémonie d'ouverture des Jeux que ce qui s'est passé. Mm-hmm.
Voilà. Mais moi, je pense qu'elle va être
la scène hier.
En plus, elle va être. Alors maintenant, elle a une pression incroyable parce qu'elle est tellement attendue. Elle va chanter du Edith Piaf, a priori. Donc la pression.
La pression,
elle a
l'habitude de l'avoir quand même. Je pense quand on.
Ah bah là, là, c'est un certain type de pression quand même.
Ouais, mais quand on est une artiste de ce niveau-là, je pense que sincèrement.
En tout cas, sincèrement.
Gérer la pression.
Sincèrement, j'aimerais vraiment que ce sujet soit clos parce que j'en peux plus.
Ah oui, je crois que
là, j'ai atteint mon.
Moi, c'est pas du tout ma came de musique. Mais alors, moi, j'accroche pas du tout.
Ouais, en fait, elle chante du Piaf. Elle a une très belle voix. Si elle chante du Piaf, ça.
Elle chante pas bien. Allons-y, ça y est, mais j'ai pas quoi en faire. Enfin, je veux dire,
vous l'avez jamais entendu. Entendu chanter sans autotune. Hein. Moi, je suis très inquiète. Voilà, je le dis.
Ah oui, alors déjà, il y a ça.
Je suis inquiète.
Puis il y a eu aussi la petite vidéo.
Parce que hier, elle était sur le plateau des Flammes. Full autotune. Hein.
Autotune, rappelle pour ceux qui ne
savent
pas.
Alors, autotune, c'est une.
C'est une transformation.
Voilà, quelque chose qui transforme la voix et qui vous permet d'atteindre des notes justes, même quand vous chantez faux.
Mais qu'est-ce qui les empêche de le faire
Ah, bah, elle peut pas, parce que ça donne un style de musique très particulier. On ne peut pas chanter du Edith Piaf avec du autotune.
Je sais pas comment dire ça, mais la voix est un peu.
Elle est déformée, quoi.
Voilà,
donc moi, elle est même pas capable de faire un live aux Flammes hier sans un micro complètement visé à l'autotune. Je suis inquiète pour elle. Voilà. Et pour
Perico,
qu'on va.
Je n'ose plus. C'est d'abord je. Une fois, je l'ai écorché sur nom.
Aya Nakamura.
Oui, mais j'avais fait exprès pour. Voilà. C'est passé dans
une autre
émission,
d'une autre aussi,
chaîne, comme étant. Ouais. Voilà, comme si j'avais fait exprès. Terminé. Je n'ose plus. Voilà, on est dans un pays où je j'ose plus dire ce que je pense ni ce que je crois.
Arrête, toi, Perico.
Oui,
non.
J'ai un respect profond pour cet artiste. Je partage pas le fait qu'elle soit dans cette situation là et qu'on ait fait ce choix là que je respecte pour autant aussi. Donc voilà, je suis dans le respect et je ferme ma gueule. Voilà, je regrette de devoir dire ça parce que j'ai pas peur de parler.
Bah oui.
Mais là, les enjeux sont tels. Dès qu'on dit un mot, on est tout de suite sur la dérive. Avec des propos récupérés, réinterprétés, surinterprétés ou mal intentionnés, que eh ben je ferme ma gueule.
Moi, je trouve que Macron l'a jeté au loup.
Je regrette que ce débat soit pas plus ouvert. Et j'avais.
Mais il est ouvert quand même.
C'est une histoire de goût et de couleur.
Mais je trouve que Macron l'a jeté au loup parce qu'il savait que c'était
une
provocation.
Il
savait que c'était une provocation. Voilà. Il savait que ça allait créer un débat monstrueux parce que Aya Nakamura qui chante du Edith Piaf au JO, c'est pas anodin. Hein, ça fait réagir.
Et donc il l'a
jeté dans la fosse au lion et il l'a laissé se faire
la croix sur le dôme des Invalides. Valide qui était passé dans le dessin là, on ne peut plus rien dire. Donc que ça se finisse, terminé, et puis vivement septembre qu'on reprenne notre bicyclette et notre bicycle pour aller à l'école.
Le comeback du jour.
Et cette question, et si l'on retrouvait la troupe du Splendide bientôt dans les salles
sympa.
De cinéma?
Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y.
Interrogé à l'occasion des 75 ans de Paris Match, la bande mythique du cinéma français n'exclut pas de se réunir à nouveau, faire des choses ensemble, oui, mais pas les bronzer, dit Michel Blanc. Un avis partagé par tous les autres comédiens. Ce qui serait chouette, c'est que quelqu'un nous écrive un scénario qui nous convienne, ajoute Marianne Chazelle.
Trop sympa. Moi, je suis fan absolu. Les bronzés
font du ski. Très, 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 très nombreux.
Père Noël,
je rappelle juste factuellement.
10 fois, 20 fois.
Factuellement, je crois que c'était pas tout à fait l'équipe du Splendide, mais on retrouve l'Ermite, on retrouve Junior, le Papy fait de la résistance.
Et
passé dimanche soir dernier sur France 2, ça a fait un carton. C'était l'audience, la première audience de France. Ceci étant dit, moi, je suis fan absolu.
Total.
Ouais, que j'adore. J'ai même eu l'honneur de jouer la pièce. Le Père Noël est une ordure.
Ah bah si.
Et tu faisais quel rôle? Je ne vous jette pas la pierre, Pierre.
Pierre, évidemment.
Si je faisais Pierre,
c'est cela.
Ah, je t'aurais vu en Père Noël.
Ouais.
Et ceci étant dit, on a eu l'expérience. Vous savez, parfois.
On va tirer l'ermite.
Les bronzés 4. Les bronzés 4.
C'était pas. Ouais.
Alors, c'est ce que j'ai dit. Non, les bronzés 3.
Je crois que c'est les 3.
Excuse-moi. Les bronzés font du
sport. On est tous amoureux des bronzés et du sport.
Mais les bronzés 3, c'était dur.
On se rappelle des bronzés 3. Et là, s'ils essaient de faire quelque chose qui n'est pas les bronzés, ils essayeront quand même de nous rappeler aux bronzés. Et je pense que ce sera
difficile
de faire quelque chose.
Je les regarderai même en déambulateur avec des projections s'il faut.
C'est vrai.
Et même Gaga, ils seront géniaux.
T'as vu qu'en plus, à chaque diffusion,
ils sont pas encore tous,
à chaque fois, on redécouvre un détail.
Ouais. Ou alors, il faudrait qu'ils cassent
vraiment
avec l'image du Splendide.
Qui faisait Marianne Chazelle dans ta pièce?
C'était Marie, une comédienne.
Elle n'a rien senti non plus, c'est ça?
Pardon?
Elle n'a rien senti non plus.
La garden party du jour.
Oui, ce mercredi, dans la mairie du 7e arrondissement de Paris, a eu lieu un apéro spécial organisé par la ministre de la Culture Rachida Dati. Un apéro canin. Oui, les habitants du 7e arrondissement ont pu se réunir avec leurs compagnons à quatre pattes. Des chiens de toute race ont pu profiter du cadre exceptionnel de l'hôtel particulier du 7e arrondissement qui fait office de mairie pour courir, jouer et donc prendre l'apéro. Petit point notable, une invitée de marque était présente. Il s'agit de Volta. Volta, voilà, on l'entend, la chienne du Premier ministre Gabriel Attal. Je vous rappelle, d'après les informations du Monde, il y a quelques semaines, Rachida Dati avait dit ces mots à Gabriel Attal: « Je vais transformer ton chien en kebab », des propos jamais démentis. Mais à en croire les photos publiées par Rachida Dati elle-même, la hache de guerre semble être bien et bien
lancée. Il avait coupé dans son budget culture. Et je crois que c'est
200 millions.
Je crois que c'est un texto qu'elle lui envoie: je transforme ton chien en kebab. Et elle attendait que la flamme
olympique arrive. C'est étendu, c'est ridicule.
Tu penses de l'apéritif?
Non, parce que
l'apéritif
c'est un arrondissement très particulier.
Ah oui,
Édouard Frédéric Dupont, quand fut le député très à droite, on l'appelait député des concierges parce qu'il faisait les concierges. C'est peut-être devenu l'arrondissement des chiens, des toutous à sa mémère qu'il faut, voilà, claque avec le caniche nain, avec le manteau.
Non,
de
non, mais
tout.
Ça va, attends, on pas déconner non plus, on n'est pas là.
Ça mange pas de pain, c'est la mairie.
Elle est ministre, on n'est pas là pour faire n'importe quoi.
Le toutou.
Oh franchement, non, on a trop de combats.
Le toutou, puis en plus, il y a le chien.
On doit lâcher l'affaire sur l'apéritif canin, non, franchement. Laisse l'affaire son apéritif canin avec les habitants du 7e.
À faire ça, elle
il y a vraiment plus grave dans la vie.
Évidemment, c'est grave, mais si tu veux, ça apporte de la légèreté alors que la.
Mais non, mais elle le fait en tant que maire, déjà, pas en tant que ministre.
Moi, je lui passe.
Avec les habitants du 7e. Et franchement, voilà, moi, j'abandonne ce combat.
Non,
je la laisse faire son apéritif canin avec plaisir.
Non, moi je lui passe. Alors d'autres personnes, j'aurais pas passé, à elle, je lui passe.
D'accord. Bon,
non. Allez, elle est quand même.
On lui passe.
Elle me fait penser à toi quelquefois. Cette énergie, cette pugnacité.
On termine avec le voyage du jour.
Oui, Paul. Je retrouve la
page. Le voyage chez Paul.
En enfer pour 300 passagers d'un vol Air France reliant Osaka
déjà
à Paris.
Voilà, distance déjà.
Osaka-Paris. Déjà
Osaka-Paris, Japon.
Ah oui, donc c'est vrai.
Suite à l'apparition, je cite, d'une odeur de chaud, c'est comme ça que ça a été décrit par les passagers, l'équipage a décidé de dérouter l'avion et de le faire atterrir à l'aéroport de Bakou, en Azerbaïdjan. Problème, les autorités du pays exigent un visa pour débarquer. Les passagers se sont donc retrouvés bloqués en zone de transit et ont dû dormir sur place. Un des passagers a publié des photos de l'attente de plus de 24 heures dans l'aéroport, dénonçant le fait de ne pas avoir été ni nourri ni bien accueilli. Et dénonçant également un avion vétuste, puisque d'après l'enquête des passagers, l'appareil vole depuis 22 ans.
C'est ce qu'on appelle...
C'est un Boeing ou pas?
Air France.
L'avion.
Ça fait 22 ans que cet avion est dans la flotte d'Air France.
Les enfants, c'est ce qu'on appelle un voyage à bas coût.
Une odeur de
très sérieusement, enfin, ce type de chaud, cauchemar comme ça.
Comme la chaux.
De chaux, non, de chaleur.
De chaud, chaleur.
Une odeur. Ah, chaleur.
Pourtant, il n'y avait pas les cabines du train allemand.
Ça peut arriver n'importe où, mais encore une fois, on parle d'une compagnie. Enfin, c'est.
Oui, Air France, oui, dans la fin, qu'attends, effectivement.
Il y a pris aussi de.
Surtout pour un long courrier.
Et encore eux qui ne sont pas pris un missile, parce qu'en Azerbaïdjan, en ce moment, c'est un peu tendu.
Entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
L'Ukraine n'est pas loin. Ils reviennent de loin. Ils sont rentrés à la maison. Qui s'estiment heureux. Voilà, il n'y a qu'à pas aller à Osaka. On n'a qu'à aller à Gennevilliers ou à Saint-Paul-de-Vence.
On va terminer là-dessus. Voilà. Rappelle-nous ta citation, ta fameuse citation sur le tourisme, s'il te plaît, Péricourt. On terminera là-dessus.
Selon Jean Missler, le tourisme est une industrie qui consiste à déplacer vers des endroits qui seraient mieux sans eux, des gens qui seraient mieux chez eux.
Merci beaucoup, Péricourt.
Ça fait
merci beaucoup.
Ça fait réfléchir.
Ah bah bien sûr. Bah, vous avez le week-end, vous rendez votre copie lundi.